6h40, bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Pour votre journal des idées, et Jacques, cette semaine, France Culture célèbre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui encore, elle reste un objectif plutôt qu'une réalité.
Ah oui, pour Amnesty International, elle ne serait même pas votée de nos jours. À l'époque, elle a été adoptée donc, parmi les États membres des Nations Unies qui s'étaient abstenus. L'Afrique du Sud contestait l'égalité de tous les humains. L'Arabie Saoudite, celle des hommes et des femmes, et l'Union soviétique, la notion d'universalité. Dans l'ensemble, les choses n'ont guère évolué, elles ont même régressé un peu partout dans le monde. Sur le site d'information et d'analyse AOC, Mireille Delmas-Marty partage le constat d'échec, mais elle insiste sur le caractère dynamique des droits de l'homme, dès lors qu'on les considère comme un processus plutôt qu'un concept fondateur. La spécialiste de l'internationalisation du droit rappelle les nombreux dispositifs que cette déclaration a engendrés, qui contrairement à elle sont contraignants, notamment les deux pactes ONU de 1966 et sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur les droits civils et politiques, ou bien encore les conventions régionales, conventions européennes ou interaméricaines des droits de l'homme, chartes africaines des droits de l'homme et des peuples. Ces textes régionaux ont prévu la mise en place de cours des droits de l'homme que l'Europe, l'Amérique et l'Afrique ont d'ores et déjà institués. C'est là, pour la juriste, la meilleure façon d'articuler universalisme et pluralisme. Elle rappelle la technique juridique mise en place par les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, celle de la marge nationale d'appréciation. Quand un droit, par exemple la liberté d'expression ou le respect de la vie privée, doit être restreint au nom de l'ordre public national, la Cour européenne des droits de l'homme dit que les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international européen pour juger des nécessités de cet ordre public. Et dans l'ensemble, malgré les échecs et les impasses, la Déclaration universelle des droits de l'homme a engagé un processus d'humanisation progressive et même réciproque, comme l'ont montré, peu après son adoption, les mouvements de décolonisation. Le débat sur la question de l'universalité cache souvent, de la part de ceux qui la contestent, une volonté de maintenir un ordre établi où les droits de l'individu, hommes et femmes, comptent pour peu. Mariage forcé, excision, traitement dégradant, recours à la torture ou à la surveillance généralisée ne peuvent s'autoriser d'une légitimité culturelle qu'à raison du déni de ce processus d'humanisation. Comme le souligne dans la page débat de La Croix Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, opposer universalité et diversité est absurde. La charte arabe des droits de l'homme s'adosse à la charia et la Chine revendique une tradition confucianiste pour faisant primer la communauté sur l'individu ou le droit au développement sur les droits civils et politiques. Mais il faut considérer les droits humains comme une sorte de filet de protection minimale, car on doit pouvoir revendiquer le fait de ne pas être torturé, quelle que soit sa culture, les traditions de son pays ou son niveau de développement. Et ce type de clause minimale devrait pouvoir faire l'unanimité. Aujourd'hui, dans nos démocraties où les droits humains, même s'ils ne sont pas toujours respectés, font office de principes régulateurs, le droit à l'information est menacé par les géants du net qui reprennent quotidiennement des milliers de contenus médias sans payer un centime à ceux qui les produisent. Le Parlement européen a voté à une très large majorité le 12 septembre dernier un projet de directive permettant à la presse et aux agences d'espérer enfin être rémunérées. Le texte doit être adopté maintenant par le Conseil des ministres et la Commission européenne. Dans les pages idées de Libération, Sami Kets dénonce une campagne de lobbying de grande ampleur des géants du net pour vider le texte de sa substance et faire exclure du dispositif les dits courts extraits désignés comme factuel, tout en réduisant la durée de protection des droits voisins. Le grand reporter de l'AFP au Moyen-Orient, le lauréat du prix Albert-Londres et du prix Bayeux des correspondants de guerre, rappelle que ce simple titre, attentat suicide dans un quartier chiite de Bagdad, 32 morts, suppose qu'un journaliste a enquêté auprès de la police pour déterminer la nature de l'explosion, appelé les hôpitaux pour dresser un bilan, est allé sur place pour décrire les lieux, recueillir des témoignages. parfois au péril de sa vie, car il n'est pas rare qu'un attentat survienne peu après au même endroit, comme ce fut le cas à Kaboul récemment. 9 journalistes et photographes tués, dont celui de l'AFP, Shah Maraï, dans un contexte critique pour la presse, lorsque les agences, pour réduire la voilure, fermeront leurs bureaux en Afghanistan, Irak, Iran ou Corée du Nord. Quelles seront alors les sources d'information des médias d'État, des campagnes de désinformation pilotées par des régimes autoritaires ?